Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Jean-Benoît Gagné avec vous, votre animateur pour ce beau programme. Et je suis accompagné encore une fois cette semaine de Daniel Carosella. Salut Daniel.
Hello, Mr. Jean-Benoît.
Allô, mon petit coquin et toi. Avant d'enregistrer qui me narguait, je vais me venger. Ça s'en vient, là. Je prépare un plan machiavélique. Digne du Joker.
Vas-y, je vais me revenger de même, puis tu te revengeras, puis on va faire le show de même.
C'est une boucle éternelle, hein? C'est tout le temps de même. Et parfois, il joue l'arbitre ou encore met de l'huile sur le feu. Luc, Desormeaux est avec nous. Salut, Luc.
Salut.
Ça va?
Ouais, j'aime plus mettre de l'huile que éteindre les feux.
Mais oui, bon, hein?
J'ai pas la shape de pompier, fait que je pense qu'on va faire la job pour rien.
C'était louche un peu, hein, comme phrase. J'aime ça mettre de l'huile. Tu sais,
sur le feu.
Ah oui, tout à fait.
Parce que Dieu seul sait comment est-ce que Luc, le chess, l'huile, tout le temps. Oh, 1 plus 1 donne 2, tout le temps.
Chess bro.
Voilà. Aujourd'hui, à l'émission spéciale Batman, on s'est dit la conjoncture des événements était bonne pour faire une telle émission spéciale avec Batman Arkham Origins, Blackgate sur l'e-sport mobile et un film... Et je me pose encore la question si on appelle ça vraiment un film de Batman sur Lego dont Luc va nous parler. Donc aujourd'hui, spécial Batman, on va discuter un peu de la trilogie des films de Christopher Nolan à la fin de l'émission. On va revenir surtout sur c'est Rises, Luc, que tu voulais surtout parler, hein?
Ouais, ben on en avait discuté dans le dernier show, fait qu'on avait dit on s'ostinera live au lieu de s'ostiner hors d'onde, donc ça, on le fera un petit peu, là.
Ah, il y a de la matière pour jaser.
Ouais, c'est
et,
ça.
Et étrangement, pour, je pense que ce sera la première fois de l'histoire de la réalité augmentée, une histoire qui, tu sais, date de belle durée, tu sais, de...
46 épisodes aujourd'hui. Genre.
Ouais, aussi loin qu'on puisse se souvenir, tu sais.
Ouais, mais c'est peut-être même plus.
C'est rendu une tradition orale depuis le temps.
Mais on a quand même la mémoire courte.
Ah oui, vraiment. Vive l'Alzheimer. Donc, tout ça pour dire que pour la première fois sur l'émission, c'est moi qui vais commencer avec la première chronique parce qu'on va faire comme le papa-jeu, cousin-jeu, genre bébé-jeu, puis après ça, on va y aller avec enfant-film.
Ouais, genre.
Genre. Tu sais, on va y aller, on va décliner. Moi, je veux... Oui?
Non, ça, c'est parce que moi, je fais film... Je fais film, mais c'est film-jeu parce que c'est un film...
Interactif?
D'un jeu.
Ah, en
non,
plus.
C'est pas interactif pantoute, c'est juste dérivé d'un jeu.
OK. Fait que tu sais, il y a comme une connexion, là.
C'est... Genre, là.
C'est super dans le style de la réalité augmentée. Jeu et film, c'est parfait.
Ah oh, ouais, c'est ça.
Donc, moi, je vais avec le jeu Batman Arkham Origins qui a été développé par Warner Bros. Games Montréal. D'ailleurs, qu'on a eu une entrevue avec l'un des producteurs un peu plus tôt dans les semaines précédentes à propos de ce jeu-là. Je l'ai traversé en long et en large. Dommagement pour moi, là, c'est dommage. Je me suis auto-tiré d'un pied là, parce que j'ai choisi la version PC. Il y avait un deal sur Steam. Vous savez ce que c'est, hein? Un deal sur Steam, c'est comme synonyme. Là.
Quand t'es cheap, t'es cheap.
Voilà, jusqu'au bout.
C'est ça.
Et il y avait donc ce fameux deal, un petit rabais, c'était même pas gros, là, c'était juste assez pour dire « Bon, ben c'est bon, je flanche et je vais me l'acheter sur Steam. » Et cette version-là, particulièrement, a été la cible de nombreux bugs. Entre autres, ceux qui ont joué sur cette version-là vont se remémorer cette fameuse tour de relais qui nous permet de débloquer les voyages rapides dans les différentes sections de la ville de Arkham. Arkham City, la ville de Gotham.
Ouais, c'est ça.
Oui, tout super grand, là. Ben, tu sais, on a le Batwing qui nous permet d'aller d'un endroit à l'autre et de faire genre des fast travel, des voyages rapides. Et c'est des tours relais qu'il faut débloquer pour que le Batwing puisse se rendre jusqu'à nous, parce que sinon, dans l'histoire, ça dit qu'il y a des interférences, il n'est pas capable de nous trouver. Fait que sinon, il n'est pas capable de venir une short fille.
C'est toujours drôle les raisons qu'ils vont trouver à un moment donné.
Ça prend des raisons. T'sais,
ça peut voler partout, ça peut aller n'importe où sur la planète, mais entre ces deux tours-là, il y a comme des interférences.
Alors, puis tu sais, il peut pas juste se fier genre un scanner thermique. Genre, le seul doute qui est sur le top de la bâtisse, c'est lui que tu ramasses. Ben non, ça serait bien trop facile. Ouais. Donc, faut débloquer des tours radio. Il y avait une des tours qui était complètement bloquée. Il fallait redémarrer le jeu, revenir à la dernière sauvegarde ou quelque chose comme ça parce qu'on commençait une énigme et on était coincé et on pouvait pas ressortir parce que Batman avait comme les mains genre comme trop molles. Il s'accrochait sur un rebord de grille d'aération, puis les mains étaient comme traversées par le rebord de la grille, tu sais. Fait que là, il était pas capable de grimper. C'est un peu bizarre comme bug de collision. Et ça a fait rager bien des joueurs sur le net. J'en ai entendu parler pas mal. C'est un des nombreux bugs qu'il y a là-dessus.
Ça a été réglé au moins?
Oui, il y a eu un patch éventuellement qui est sorti pour essayer de régler le tout. Faut dire que. Tu sais, quand t'as, je pense que c'est comme 7 ou 8 tours relais, là, pis t'en as une sur les 7-8 qui marche pas, mettons que ton taux de réussite est pas super élevé, tu sais, pis c'est comme des points importants, tu sais. On incite les joueurs à y aller. Fait que, tu sais, c'est comme, bon, ben, je vais y aller. Et c'est comme un point de sauvegarde en plus quand t'as des blocs. Donc, ça veut dire que tout ce que t'as fait avant, dans les dernières minutes, si t'as pas fait d'action notable, tu t'es juste promené, t'as abattu des ennemis comme ça, mais t'as pas fait d'action notable, genre faire une énigme, avancer dans la quête principale ou quelque chose comme ça, ramasser un trophée. Si t'as rien fait de ça, tout ce qu'il y a de monde que t'as battu, les points que t'as engrangés, t'oublies ça, là. La sauvegarde, il n'y en avait pas, là. C'était ça, ta sauvegarde. Fait que, oublie ça, tu sais.
Donc,
ouais, ben plaisant. Je vais revenir à la base. On va parler du jeu en tant que tel, de l'histoire. C'est tout simplement l'histoire d'un grand méchant, Black Mask, de l'univers de Batman, qui est un multi riche, un peu à la manière de Bruce Wayne. Il y en a un qui a viré gentil, Bruce Wayne, et il y en a un qui a viré méchant, Black Mask, sioniste de son nom de famille, son vrai nom, là. Et celui-ci a embauché 8 super tueurs d'élite pour faire la peau à Batman. On est la veille de Noël, le 24 décembre, et tout ce beau monde-là a tout la nuit pour abattre Batman et gagner une affaire comme 50 millions de dollars. Et Dieu seul sait comment est-ce que les poffins, c'est au cash. Du monde de même, ça veut du cash. Donc, tu dis, m'a donné du cash. Ils disent oui, m'a le faire. Donc, tout le monde s'essaye un en arrière de l'autre. Il y en a une belle trolley. Ça passe entre autres par, bien entendu, le pingouin, qui n'est pas connu sous le nom du pingouin encore. C'est Oswald Cobblepot.
Okay, au moins, ils ont gardé son nom original, hein, c'est bon.
Oui, au moins. Dans les tueurs, il y a Killer Croc qui est là, Deadshot. On retrouve Bane, l'électrocuteur, Copperhead, Firefly. Shiva, entre autres, et c'est pas mal ça, donc pour les méchants, et Black Mask, bien entendu. On se rend compte rapidement que Black Mask n'est peut-être pas le gars à lequel on pense. Quelqu'un a peut-être volé son identité, c'est même plus un... On le voit dans le trailer, là. C'est le Joker, qui est pas connu à ce moment-là par Batman, qui a développé un plan machiavélique en prenant l'identité de Black Mask pour attirer les tireurs, les assassins et poursuivre Batman. Et lui, ben, par la underside, on découvre ses origines parce que c'est le début de l'histoire de Batman, d'où le titre Batman Origins. Ça donne bien.
C'est tellement concept.
Mais c'est ça, tu sais, étonnamment, c'est concept, tu sais. Et Batman, donc, on va le retrouver étant assez jeune. Ça fait 2-3 ans qu'il a commencé à faire ses aventures de chevalier masqué. Il est pas mal plus un genre de « je cours après les petits méchants, les petits malfrats, puis j'essaie de rétablir la paix » qu'un vigilante, tu sais, le super-héros, l'icône qu'il est censé devenir. D'ailleurs, la police pense qu'il est un criminel. On va donc voir un peu le développement des relations entre Batman, le commissaire Gordon, le Joker. On va voir l'univers de Batman se placer tranquillement, pas vite. L'une des choses intéressantes par rapport au deuxième volet, parce que ça se retrouve finalement être beaucoup plus proche de Arkham City que ce que ça peut être de Arkham Asylum, qui était le premier qui a été réalisé là, dans cette nouvelle trilogie de jeux. On est beaucoup plus près en termes de jouabilité, de possibilités là, de gadgets, de façon de produire l'histoire, de style de combat de Arkham City que de Arkham Asylum. Je vois, on va simplifier la tâche, je vais dire 1, 2, 3, OK? Asylum 1, City 2, puis 3, Origin. On va y aller de même, ça va être plus facile de se démêler dans l'ordre chronologique des choses, puis les références. Pour la suite de la chronique. Dans les trucs, pourquoi que je dis qu'on est plus proche de Arkham City? C'est tout simplement parce que c'était la gang de Rocksteady qui avait fait le jeu, le deuxième, donc Arkham City. Un jeu qui a été acclamé par la critique. C'était un beau développement. C'était la première fois qu'on avait vraiment cette liberté-là avec Batman d'aller voyager n'importe où dans un monde ouvert, dans une partie de la ville, Arkham City, qui devenait la prison pour les détenus de Gotham City. Et c'est la première fois qu'on avait vraiment un cadre plus grand, tu sais, qu'on avait la possibilité de voyager de gauche à droite, de nord au sud, peu importe avec Batman, en toute liberté. C'était la première fois et c'était une belle innovation. On avait poursuivi sur les bases du premier Asylum et on avait fait, dans le fond, un excellent développement. Ça avait été un jeu qui avait été acclamé par la critique des 9 sur 10, 18 sur 20, des notes comme ça. C'était un jeu qui avait marqué son époque en 2009 quand il est sorti. Et la gang de Warner Bros. Games de Montréal, qui ont repris le contrat de Rocksteady, qui ont repris la franchise, se sont dit, on a eu un jeu à succès en 2009. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir une continuité de ce titre-là. Ils veulent retrouver la même expérience. Et c'est ce qu'on a offert aux joueurs. Ils ont demandé, ils ont reçu. Le problème, c'est que même si un titre aussi bon soit-il, a été remarqué il y a quelques années. Veux pas, le temps va lui jouer des tours. Si on essaie de reprendre exactement la même formule et la remettre plusieurs années plus tard. Entre 2009 et 2013, il y a un monde d'évolution. Il y a un GTA V qui vient d'arriver avec 3 héros, avec un monde hyper vaste, avec des possibilités super grandes. Je veux pas dire que GTA est un Batman ou que Batman devrait être comme un GTA. Ce que je veux dire, c'est que les possibilités de gameplay dans un jeu à monde ouvert, maintenant, ce qu'on sait qu'on est capable de faire, la référence c'est GTA V, ben Batman Arkham Origin n'est pas rendu là. Il est très très loin de là. C'est un bon jeu, somme toute. C'est très agréable de le traverser. C'est plaisant, on a du fun. Mais c'est un copier-coller. On a simplement changé la trame narrative de Arkham City pour la transposer au début de l'histoire de Batman pour nous faire évoluer et suivre une marche, une histoire narrative qui est assez semblable. La façon d'évoluer, on retrouve certains passages même qui sont presque copiés-collés avec entre autres le Chapelier Fou. On a eu dans City, dans le deuxième, on a eu un passage avec le Chapelier Fou. Et là, on le retrouve presque au même timing dans l'histoire, dans Origin. Et d'ailleurs, c'est probablement l'une des facettes les plus poches du jeu, mais ça, je reviendrai, il y a des passes là-dedans qui sont vraiment pas agréables. Donc, somme toute, c'est un copier-coller. On n'a pas voulu changer quelque chose qui avait bien fonctionné. D'une certaine façon, normalement, ça aurait dû être une bonne chose. Mais le poids des années, si le jeu était sorti, exemple, en 2010 ou en 2011, on aurait fait comme « Ah, perfect, tu sais, c'est ce qu'on s'attendait, c'est encore au goût du jour, c'est encore au top, tu sais. » Mais là, 4 ans plus tard, non, tu sais, on a vu qu'il y avait de l'évolution, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient capables qui étaient faisables, qu'on était capable d'atteindre. Et ces choses-là sont plus loin que ce qu'on s'est rendu avec Origin. Et donc, la marge de manœuvre fait qu'on se rend compte que, ben, tu sais, finalement, on aurait peut-être pu en donner plus et on aurait voulu en avoir plus. C'est probablement le plus gros défaut du jeu, ça, puis des bugs.
On a peut-être joué safe, par exemple.
On a joué extrêmement safe.
Tu peux pas arriver. Parce que les deux premiers jeux ont été faits par Rocksteady. Fait que tu te ramasses avec... Bon, ils ont connu beaucoup de succès avec Arkham Asylum. Puis après ça, bon, ils sont allés avec Arkham City. Ils ont ajouté le fait que tu peux jouer Catwoman. Donc, tu pouvais jouer deux personnages. C'était différent un peu. Puis là, tu te ramasses avec un nouveau studio qui est Warner Brothers Games à Montréal qui se ramasse avec la franchise. Tu sais, tu veux pas faire un Joel Schumacher de toi. puis rentrer la franchise qui marche super bien dans
le mur.
Dans le mur, puis te planter. Fait que peut-être que celui-là, ils ont resté un petit peu, tu sais, prudents. Puis le prochain, ils vont peut-être s'approprier plus la franchise, puis aller vers quelque chose de plus nouveau. Là.
C'est ce que je souhaite. Parce que...
Faut que tu fasses attention aussi quand tu touches un super-héros comme Batman ou un super-héros ben oui. comme Superman.
Il y a un fanbase, hein, tu sais.
Les fans vont te ramasser si t'as le malheur de faire des erreurs trop graves. Là. Fait que tu veux pas non plus te mettre les fans à dos. Là.
C'est pour ça que je dis que le jeu, il est bon. Il est agréable à jouer. J'ai eu du fun. Sauf que je me suis dit, c'est un copier-coller. Et autant c'est une bonne chose parce qu'on a évité plusieurs pièges qui auraient été hyper faciles de tomber dedans, de vouloir réinventer, de vouloir aller trop loin, de vouloir, tu sais, changer complètement le moule. Non, on est dans la continuité, c'est une bonne chose. C'est comme, je pense tout le temps, à des aux Megaman, tu sais. On s'entend-tu qu'il y en a 120 000 des Megaman qui sont tous faits de la même façon, ceux qui sont les fameux platformers, tu sais, sont tous dans la même structure, les gens, c'est ce qu'ils veulent, tu sais. Mais aussi...
Ou les Mario,
c'est ce que les gens veulent avoir un fameux platformer en 2D. Autant t'as des gens qui vont dire, c'est exactement ça que je voulais ma bonne vieille sauce à spaghette, qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, tu sais, Mario serait peut-être dû une petite évolution, on serait peut-être dû pour aller de l'avant, tu sais. Donc, autant c'est deux poids, deux mesures qui sont tout aussi vraies l'une que l'autre, qui sont tout aussi louables l'une que l'autre, et on a choisi chez Warner Games tout simplement d'y aller vraiment safety, là, tu sais, d'y aller safe et de ne pas se péter la gueule, d'apprendre à connaître la franchise, d'y aller avec des recettes connues, reconnues, qui ont fait le succès du jeu précédent, et de les appliquer de A à Z. Fait que, tu sais, est-ce que je peux leur en vouloir? Non, ils ont livré un jeu qui est agréable. Est-ce que je peux être déçu de pas avoir poussé un petit peu la machine? Oui, tu sais, mais ça demeure quand même un bon jeu. Je vais y aller avec une énumération, comme je le fais habituellement, des points positifs versus les négatifs. Ça va me permettre de traverser un peu le titre avec vous autres. Les environnements, beaucoup plus vastes dans Arkham Origins que dans City. C'est rempli d'adversaires de différents types. On va avoir nos gadgets qui vont nous permettre de découvrir des secrets placés ici et là par le Riddler. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça. La ville, elle est remplie. Tu passes pas genre quatre rues avant qu'il se passe de quoi. Mais en même temps, c'est un peu vide. On dit que c'est la veille de Noël, tempête de neige. Tous les résidents, eux, sont à l'intérieur pour fêter. D'ailleurs, il n'y a pas de Manon Sous sur la route. Ça n'existe pas dans Arkham Origin. Tout le monde est dans la maison, tout le monde est en train de fêter. Toute la nuit, il n'y a pas un chat qui se promène, tu sais. Et à l'extérieur, t'as juste les méchants. Donc, ça donne un environnement qui est vaste, qui a plusieurs secrets, qui a plusieurs choses à faire, mais qui aura... on a l'étrange sentiment que c'est vide. Et la tempête de neige, on nous dit qu'il y en a une, là, mais des fois, on s'en rend plus trop compte. Là. Tu te promènes dans la ville, puis il n'y a pas de neige, il n'y a pas... ou pratiquement pas, puis on dirait qu'il y a des moments où est-ce que c'est complètement de l'accalmie, ou d'autres moments que c'est complètement ça la folie, là. Il neige dans des cinématiques, tu reviens dans le jeu, fait que, oh, ah, 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 la météo, elle vient de changer, c'est comme beaucoup plus calme. C'est probablement le moteur qu'ils ont utilisé qui a atteint ses limites d'une certaine façon, ou la façon qu'on l'a programmé pour les intempéries, pour pas ralentir le jeu, parce que c'est ça, on le sent pas tant que ça qu'il y a une tempête de neige, puis que c'est censé être spécial, tu sais, comme occasion côté météo. Dans les points positifs, le fast travel, comme je vous ai mentionné, à part la tour radio qui bloque, qui est jamais, c'est un système qui fonctionne super bien. Ça nous permet de visiter la Batcave, d'aller pitonner ses ordinateurs, puis de se sentir comme vraiment d'être le Bruce Wayne qui campe le rôle de Batman, tu sais. Ça nous intègre encore plus dans le personnage. Les gadgets, ça, on a parlé avec le producteur de Warner Bros, Warner Games. Il y a des anachronismes, il y a des choses que Batman développe dans Arkham City qui se passe après Origin, qu'il a déjà dans Origin. L'un des avantages, c'est que tu joues à City, tu passes à Origin, c'est la même maniabilité, c'est les mêmes gadgets placés à la même façon, même arbre de compétences, tu sais, même façon de procéder. Tu passes de l'un à l'autre, puis on dirait que t'as pas changé de jeu. L'avantage, c'est que dès le départ, t'as l'impression de pas être bloqué, tu sais, d'avoir toutes tes options. Et pourtant, on va en rajouter encore une autre couche qui va être fort agréable. Des exemples, à un moment donné, tu vas avoir des gants électriques. Il y a des génératrices, tu vas pouvoir leur donner de l'énergie pour activer des passerelles, des passages qui ont besoin d'électricité. Ou encore, dans les combats, plus tu te bats, tes piles se chargent, oups, t'es décolle, là, ça te fait plus de dommages. Pas mané, après un certain nombre de coups, tes gants électriques ben, s'éteignent et tu redeviens juste à main nue standard. Donc, il y a des choses comme ça qui vont s'ajouter à ce que tu aurais normalement. Mais au départ, tu n'as pas le sentiment d'être bloqué. Tu as l'impression d'avoir déjà tout ton, toute ta panoplie. Là. J'ai passé dernièrement, je l'ai terminé d'ailleurs hier, Arkham Asylum. Je l'avais jamais joué. J'avais joué à City, j'ai joué à Origin. J'avais pas fait Asylum. Et il l'avait dans un Humble Bundle de Warner. Fait que je me suis dit, je m'en passais à travers. Et je trouvais qu'à un moment donné dans l'histoire, tu avais plein de trucs que tu te disais, « OK, ça me prendrait tel gadget, ça me prendrait tel gadget. » Et t'arrives dans l'histoire, puis là, il fait comme « Bon, ben, je suis rendu là, fait que je vais appeler la Batwing pour avoir telle patente. Je m'en vais dans Batcave, je ramasse un bidule. Hey, écoute, là, t'as tous les méchants de ton univers qui t'attaquent en même temps, dans la même nuit, dans la même place. Quand tu vas dans Batcave, ramasse tout. Come on. Non, ouais, tu sais, prends tous les gadgets, sois prêt, tu sais. Attends pas un certain moment de l'histoire pour débloquer des affaires, là. Prends-les, là.
Mais fais-toi un petit pack-sac, là, puis amène ton stock.
Voilà, tu sais. Alors que ça, dans Origin, on l'a pas ce sentiment-là. On a l'impression d'avoir déjà tous les gadgets. Puis ce qu'on ajoute par la suite, c'est des trucs qu'on remarque sur certains méchants à certaines occasions. Qu'on va donc se dire, ben écoute, Batman évolue au fil des rencontres qu'il fait. Au lieu de, ah ben Batman, il a oublié sa liste d'épicerie. Puis ouais, il se rappelle que hey, ça y prenait du céleri. Il faudrait peut-être qu'il en ramène un. Ah ouais, la Batwing, ramène-moi du céleri. Non, tu sais, c'est bien intégré dans l'histoire comment est-ce qu'on développe, qu'on débloque les nouveaux gadgets. L'histoire, super bien conçue. Autant j'avais l'impression que ça pitchait à gauche et à droite dans Asylum et dans Arkham City, que le, tu disais, bon, ben ça prend des méchants, fait que trouvons des twists à l'histoire. Batman a besoin d'aller à telle place. Ben c'est clair que la place, elle va être barrée, la porte va être barrée. La seule personne qui a la clé, c'est un autre méchant qui n'était pas là dans l'histoire avant ça. Tu vas aller voir le méchant, lui, il veut telle affaire, tu vas faire que t'ailles un autre. Là, ça finit plus. Il y a des, tu sais, des, l'histoire fait comme un serpent, là. Ça zigzag, là. Ça n'a pas de bon sens. Tandis que dans celui-là, l'histoire n'est pas la plus complexe. Une nuit, des assassins, on attaque Batman, un en arrière de l'autre, tu vas y voir. Sauf que ça a l'avantage d'être clair et de nous amener une histoire scénaristiquement qui se tient pas mal plus, qui est plus mémorable, plus facile de... OK, c'est ok, j'ai passé par là, je suis rendu là, je m'en vais là. T'sais. Scénaristiquement, ça se tient pas mal plus. C'est à l'avantage de Origin. Parlant d'Origin, Batman, on le voit évoluer dans le cadre du jeu. Mais l'un des personnages qu'on apprend le plus à connaître, c'est le Joker, bien sûr. On apprend beaucoup sur ses origines. Si vous aimez détester le Joker, voilà, c'est le jeu à jouer pour apprendre à connaître celui-ci et comprendre pourquoi lui et Batman, c'est tellement... C'est comme deux mains là, qui se tiennent ensemble, là, t'sais, entrelacées, là, les cinq doigts de la main. Là, c'est interrelié, ces deux gars-là. C'est autant ils sont à des extrêmes... l'un et l'autre, qu'ils sont proches l'un et l'autre. Et ça, on va l'apprendre pas mal plus. Et aussi la façon qu'on amène ces histoires-là. Je déboilerai pas de punch, je dirai pas quel personnage qui nous est dévoilé, mais la façon dont l'histoire nous est racontée et dans laquelle on participe pendant qu'on nous raconte les événements, l'histoire, il y a une scène là-dedans qui est mémorable. J'ai même, d'ailleurs, au moment de la passer, j'ai écrit sur les réseaux sociaux, j'en veux plus dans mes jeux vidéo, de l'intégration scénaristique comme ça, dans un jeu, dans une passe de gameplay qui nous fait avancer l'histoire, comment est-ce que c'est raconté. C'était mémorable. C'est une belle scène. Si vous cherchez un peu, si vous n'avez pas le goût de passer à travers le jeu, ça vaut au moins la peine d'aller voir les vidéos de cette scène-là en question. Ça nous explique l'origine d'un personnage bien précis de l'univers de Batman d'une superbe belle façon. Et toujours, en terminant, le système de combat des Batman, toujours aussi jouissif, toujours aussi agréable à prendre en main. C'est intuitif. Les combos, c'est simplifié. C'est hyper simple. On finit, on commence le jeu, puis on est un peu Un peu comme Batman, tu sais, on découvre nos pouvoirs, on découvre nos capacités, on fait des petits combos, 3, 4, puis après ça, on se fait pogner ou les combos arrêtent. Quand tu arrives à la fin, puis tu fais des combos de 30 le coup à la suite, tu te sens badass, tu sais, tu te sens comme sur la coche. Et ça, c'est très, très agréable. Dans les trucs plus négatifs, je vous avouerai que les environnements vides, comme je vous l'ai dit, c'est un peu dérangeant. On se dit, ben, tu sais, il y a de la place, il y a de l'espace, mais il se passe rien. Tu sais, il n'y a pas d'interaction tant que ça. Faut que tu sois au devant des événements pour qu'il se passe des choses. T'es pas en train de te promener. Je vais prendre un exemple dans GTA. Tu te promènes en char, puis là, sur le bord de la rue, tu te promènes, et il y a quelqu'un qui fait, hey, viens m'aider, viens m'aider. T'as pas ça dans Batman. Si tu te rends pas pour aller voir la personne, il y a rien qui va se déclencher. Il y a pas d'événement aléatoire de cette façon-là. Si ce n'est des personnes qui sont en train de se faire attaquer par des gangs et que tu y ailles ou que tu y ailles pas, ça change que dalle. Ils vont taper, taper, taper éternellement, tu sais. Puis le gars, ça finit jamais, là. Le gars, il tombe jamais dans les pommes. Les gars, se tannent jamais de taper dans le gars, tu sais. C'est un peu dommage. Sinon, les boss, les 8 qu'on va devoir affronter, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop scripté. Il y a une façon d'y battre, il y a une façon de le faire, de procéder. Tu peux pas te déroger. Si tu déroges de la technique, tu te fais planter, c'est pas long. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Comme s'il y avait une seule façon d'arriver à abattre ces méchants-là. Batman, il doit avoir un plan B, il doit avoir un plan C là, dans la vraie vie. Là. Si Batman existe, là, il est capable de battre n'importe qui. Puis, tu sais, des plans, il y en a plus qu'un pour affronter quelqu'un. Là. Donc ouais. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Particulièrement, Firefly, petit bonhomme avec des jetpacks dans le dos qui volent. On est dans une arène, un genre de dépotoir, et on doit battre un certain nombre d'ennemis avant que celui-ci arrive. Ben moi, j'ai amené un qui est resté pogné sur un poteau dans les airs, puis il était coincé là. J'étais pas capable de l'atteindre, il était pas capable de descendre, il est juste comme apparu dans le vide. Fait que j'étais obligé de recommencer la séquence au complet pour en espérant que celui-là soit correct. Parce que je l'entendais au loin. Hey, Batman, va te planter. Il était coincé d'un mur invisible à quelque part à l'autre bout de la map. Là, fait que ça, c'est un peu dommage. Le Chapelier Fou, j'en ai glissé mot, une séquence qui est presque identique à la façon de procéder dans Arkham City. Il y a une passe là-dedans qui est atroce. Tu as un bloc de glace, tu dois traverser une rivière en t'agrippant avec ton grappin pour te tirer vers l'autre côté de la berge. Je sais pas comment ce qu'ils ont fait. La caméra, elle est fixe, là. Donc, c'est assez simple. Là. On se promène sur un plan 2D. Là. Et je l'ai recommencé une quinzaine de fois. Le bloc de glace, soit il était trop sur la berge, sur, mettons, de la gauche, on s'en va de gauche à droite. Il était trop sur la berge à gauche. Donc, j'embarque dessus, je me tire, ça avance pas. Ou il est trop loin, puis je tombe dans l'eau entre la berge et la plaque de glace sur laquelle je vais embarquer. C'était tellement mal calibré, là. Il a fallu, sincèrement, que je le recommence au moins une vingtaine de fois. Puis c'est pas parce que j'ai pas essayé de différentes façons pour y arriver, là. C'était tellement rigide, je sais pas comment est-ce qu'ils ont codé ça, mais cette scène-là, atroce, ce petit bout-là, là. Et pourtant, il y a pas d'ennemi, il y a rien là, qui se passe. Il y a juste moi, un bloc de glace, puis il y a un autre côté de berge que je dois traverser, et c'était pénible à l'os.
Ben, et... ça fait penser à une séquence qui était ratée dans Arkham City. Que, même genre de séquence, mais c'était avant l'affrontement avec le pingouin, si je me rappelle bien.
Puis, hey, c'est loin un peu, là, Origin, par exemple. Pas Origin, mais City. C'est loin un peu dans mes souvenirs, City.
Non, mais il me semble aussi là, qu'il y avait une séquence comme ça, puis justement, c'était assez dur de t'agripper aux espèces de crochets pour te tirer. Puis si tu tombais dans l'eau, ben, là, t'avais un crocodile géant qui venait de bouffer, puis tu mourais d'un coup. Mais c'était... pour être poli, c'était sacrant.
Oui, exact. À un moment donné, j'ai fait comme... Oui, non, c'est moi qui, tu sais, je suis rendu manchot, puis je taponne avec mes coudes, sa manette. C'est que, tu sais, c'est moi qui contrôle mal Batman tout d'un coup, là. Me semble que ça allait bien, là. Ça fait 20 heures que je joue, là. Ça allait relativement bien. Je m'en sortais bien. J'affronte les boss, ça va bien. Là, j'arrive là, une plaque de glace, mon homme. C'est le talon d'Achille de Batman. C'est ça, là. Écoute, ça, là, Batman, il essaie de les éviter. Écoute, il se promène rien que l'été pour être sûr. Ça n'a pas de bon goût.
Lui, son bat skidou puis sa bat souffleuse, il n'aime pas ça.
Exactement. Et dernier point, j'ai trouvé que la trame principale, autant c'est un avantage qu'elle soit plus claire. On sait qu'on s'en va du point A au point Z. T'sais, de A à Z, on va traverser l'histoire. C'est plus direct. On comprend mieux ce vers quoi on s'en va. Il y a moins de revirements de situation improbables. Mais je l'ai trouvé un peu courte, cette trame principale. On nous amène rapidement à, après ça, ben, trouver les différents trophées, les énigmes, tout ça, dans le jeu en mode air ouverte. On nous amène beaucoup à aller là-dedans avant d'avoir fini la trame principale parce qu'elle est relativement courte. J'aurais aimé que ce soit plus long, la quête principale. C'est un peu dommage. Et autre point risible, je parlais de la plaque de la glace, les enquêtes, c'est... écoute, on nous tient par la main, c'est l'enfer. Seule évolution de ces scènes-là qui étaient déjà probablement le plus gros point faible de Arkham City. La seule différence qu'on a fait, c'est qu'on a comme un avance, puis on a un reculon. Fait que tu peux revenir comme dans le temps, tu sais. Fait que là, tu peux, exemple, il y a quelqu'un qui tire quelqu'un à travers une fenêtre, tu peux genre suivre la trajectoire de la balle en revenant pour voir, OK, là, à traverser la vitre, ça donne tel éclat à telle place, je suis capable de voir l'angle. C'est n'importe quoi, là. Il y a une scène, entre autres, avec un hélico, là. C'est risible. Là, tu fais comme, bon, ben... OK, c'est le pilote automatique, tu payes sur un piton, puis ça part tout seul, merci, bonsoir. Ça t'explique toute la patente. Tu sais, faites une cinématique tant qu'à ça. Tu sais, tant qu'à avoir une scène aussi faible que ça, en termes de jouabilité, en termes d'impact... Mais ah ouais, tu sais, ah ouais, c'est le vrai pilote automatique, mets ça en vidéo, en cinématique, puis raconte-moi une histoire. Fais ça beau, là, raconte-moi une histoire, je vais être bien content. Fais-moi pas niaiser, là. Tu sais, j'ai pas besoin de ça. On va super vite, baston, des énigmes, tu sais. Ah ouais, tu sais, on avance. Puis là, on arrive, bang, on pogne un mur. Fait que c'est ça. Tu sais, mets-moi une cinématique. Rendu là. Donc, voilà pour Arkham Origin. C'est pas un mauvais jeu, c'est juste pas à la hauteur parce que le temps a avancé de Arkham City. Je vais y aller avec une note d'un. Je vais y aller avec un 7 sur 10. C'est un achat, une location. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais ne vous attendez pas à être aussi étonné, flabbergasté, enjoué que quand vous avez traversé Arkham City.
OK. Bon. Au moins, c'est. Comme je disais tantôt, c'est un bel effort. On va espérer que pour le prochain, ils vont s'approprier le titre et qu'ils vont faire quelque chose un peu mieux. Peut-être.
Eh ben oui, mais tu sais, en même temps, ils ont joué safe. Fallait que Warner Montréal se mette ça à map. Ils ont dit bon, on va prendre un concept qui a quand même fait ses preuves, puis on va essayer de se créer une identité à partir de ça. Mais si on se fie autant aux critiques, mais surtout à la tienne, Jean-Benoît, c'est ça. C'est vraiment un copier-coller de Arkham City. Moi, j'ai commencé à y jouer, honnêtement, j'ai pas pogné. Il va falloir que j'y redonne une autre chance, mais pour l'instant, j'ai pas eu cette espèce d'accrochement que j'avais quand j'ai joué autant à Arkham Asylum que Arkham City.
Tu faisais quoi par accrochement?
Ben écoute, moi quand j'ai commencé à jouer autant à Asylum que City, j'ai plongé dedans dès le début. Asylum, ben je trouvais ça intéressant justement de rentrer dans la prison d'Arkham, de justement t'sais, t'es pogné dans les murs de la prison psychiatrique. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Dans City, ben là justement t'sais, Batman qui commence en Bruce Wayne qui se fait attaquer, bon t'sais, dès le départ, j'ai dit OK, c'est des jeux que dans lesquels je veux m'investir, puis que j'ai eu de la difficulté à lâcher jusqu'à temps que je n'avais pas fini. Mais Arkham Origins, j'ai commencé à jouer, puis je ne sais pas, le début m'a pas poussé à vouloir continuer. T'sais, tu me dis qu'il y a une scène mémorable, puis honnêtement, c'est un peu parce que tu me dis ça que je veux continuer.
C'est presque à la fin en plus, fait que t'as pas le choix. Faut que tu t'offres le jeu jusqu'au bout. Ben, c'est pas un mauvais jeu, mais t'sais, peut-être que toi, ça t'accroche juste pas. C'est vrai que scénaristiquement, c'est pas digne des plus grands chefs-d'œuvre. C'est assez simple. Il y a des assassins qui te courent après Batman, sauf tes fesses. T'sais, c'est simple comme bonjour. Là.
Et pourtant, je veux dire, City puis Asylum, ça fait partie de mes meilleurs jeux des dernières années. Fait que. Mais je sais pas. Origins, ça m'a moins accroché. Mais je vais lui donner quand même une deuxième chance quand je vais avoir passé au travers d'un certain Mario pour une deuxième fois.
Si jamais tu te tannes avant d'avoir vu la scène mémorable, il y a des vidéos sur le web. C'est possible.
Ah, OK. Non, mais écoute.
Mais de la jouer, c'est encore mieux que de la voir. Puis, assez que, tu sais, je vous dis, il y a des vidéos. C'est parce qu'une fois que je l'ai joué, j'ai fait. Waouh, c'est bien, tu sais, c'était bien intense. Je suis content d'avoir vécu ça. C'était un beau moment mémorable. J'ai le goût d'aller le revivre, tu sais. Fait que je me suis dit, y a-tu une vidéo de ça? Je veux, tu sais, me donner une deuxième occasion de pouvoir le vivre. Ça me tente pas de traverser le jeu au complet. Au complet une deuxième fois pour aller juste voir ça. Fait que j'allais voir la vidéo. Puis, tu sais, en vidéo, c'est pas. Moi, en plus, je connais le punch, on s'entend, là. Mais, c'est t'as pas l'implication que ça amène d'avoir la manette entre les mains puis de contrôler les personnages.
Mmh. Ouais, je suis d'accord.
Donc, un beau 7 sur 10. C'est pas un jeu parfait. Mais c'est pas un jeu qui a énormément de défauts, si ce n'est les bugs qui ont été tranquillement pas vite refaits. On a arrangé nos patentes chez Warner Games. La franchise est entre bonnes mains. Je vois l'horizon comme étant très, très lumineux pour Batman. Si on continue dans cette lignée-là, j'ai beaucoup de difficultés à penser que on s'en va d'un mur puis que c'est en train de planter. Là. C'est pas les signes qu'on me donne, mais on me donne un signe surtout de on a été prudent, on a appris à faire le personnage, à rentrer dans cet univers-là, puis maintenant on va être peut-être prêt à aller encore plus loin la prochaine fois.
Ben, tant mieux.
On va voir.
Hey, ça a bien été. Écoute, on a encore du temps pour vous autres, les boys. J'ai pas pris tout le temps.
C'est beau te ventiler.
On va y aller avec toi, Dan, parce que tu y étais avec le petit cousin de Arkham Origin. Tu as joué au jeu version mobile qui se nomme Batman Arkham Origin Blackgate.
Oui, ben critique qui va être un peu moins longue que la tienne parce que le jeu est un petit peu moins gros que Arkham Origins.
Tu me surprends.
Je te surprends à chaque semaine. C'est ça le pire. À un moment donné, écoute, t'auras plus de chaise à force de tomber.
Moi, là, l'émerveillement. Hein. Je me laisse émerveiller. Moi, je suis comme un jeune enfant.
Ben écoute, tu sais, Arkham Origins c'était quand même un jeu attendu, donc on s'est dit pourquoi ne pas profiter de cette effervescence et faisons acheter sa suite directe avec une autre console, tu sais, parce que c'est un opus qui est exclusif aux consoles portables, donc qui est uniquement disponible sur Nintendo 3DS et PlayStation Vita. Et qu'est-ce que c'est en fait Blackgate? C'est vraiment, ça prend place après les événements de Arkham Origins. Et tu commences en découvrant, en étant le témoin de la relation, de la première rencontre de Batman et une de ses plus célèbres ennemies, à savoir Catwoman. Donc, Batman connaît pas vraiment Catwoman à ce moment-là. C'est cependant par la police qu'il y a une voleuse qui a volé un important bijou et donc part à sa chasse. Et c'est comme ça que Batman va rencontrer pour la première fois Catwoman. Mais comme un malheur n'arrive pas tout seul, comme on le sait dans nos très chères vies, ce qui va arriver, c'est que Catwoman, oui, va être capturée par Batman. Il va y avoir une explosion dans la prison de Blackgate. Donc, la prison de Blackgate qu'on a pu voir au début de Batman Arkham Origins. Et là, évidemment, parce que la police de Gotham n'est pas super efficace. Hein,
non.
<actuellement. rire> Fait qu'ils vont dire à Batman, ben c'est trop dangereux, toi qui es tout en Kevlar et tout bien musclé, va donc voir ce qui s'est passé. Tant qu'à y être, arrête donc tout le monde pour que l'ordre revienne. Et c'est comme ça que tu vas plonger dans la prison de Blackgate, et d'où le titre du jeu. Dans la prison de Blackgate, ben, tu vas avoir certains ennemis connus de Batman à traquer et à affronter. Un des premiers ennemis, c'est le Pingouin, qui porte d'ailleurs le nom du Pingouin là, dans la prison. Ce n'est plus Oswald
Cobblepot. Mais c'est ça, parce que dans le jeu, dans Origin, il n'est pas encore le Pingouin. Est-ce que c'est expliqué la passation entre Cobblepot et Pingouin? Parce que ça semble être pas si lointain, là, l'espace de temps entre les deux jeux.
et je te répondrai pas pantoute.
OK, en fait, donc il y aura un genre 1.5 genre entre Origin et Blackgate éventuellement. Qui va expliquer ça?
Moi, je mise plutôt sur des contenus téléchargeables. Mais d'ailleurs, le premier contenu téléchargeable de l'histoire d'Arkham Origins a été annoncé, donc qui va rajouter une portion au solo. Mais écoute, il y a pas, on plonge pas tant que ça dans, je dirais, l'histoire des personnages, dans ce qui les caractérise. On n'est pas au niveau de Arkham Origins. T'sais, le pingouin est un big shot là, du monde criminel dans la prison de Blackgate. Donc, il a beaucoup de ressources, surtout humaines. Il est très riche, donc peut soudoyer des gardes, peut aussi engager des prisonniers pour se battre pour lui. Mais tu sais, on est plus dans une rivalité de gang dans la prison de Blackgate. Donc tu sais, c'est la gang du Joker contre la gang du Pingouin, puis tu sais, des choses comme ça. Mais on plonge pas tant que ça au niveau de l'histoire là. Ce qui était intéressant dans Arkham Origins, au niveau, tu sais, justement de l'approfondissement de l'histoire des personnages, on n'est pas à ce niveau là vraiment dans Blackgate. C'est beaucoup plus léger, je dirais. C'est un défaut, oui, c'est une faiblesse en fait, parce que, bon, c'est justement ça, on aurait aimé ça, avoir les ponts finalement entre Origins et Blackgate.
Parce que sinon, je vais juste m'inclure là, parce que sinon, ça devient un jeu comme n'importe quel autre. Tu deviens finalement un jeu qui a des skins, qui a une apparence de Batman, mais qui pourrait être n'importe quel autre jeu s'il n'y a pas l'histoire qui est propre à celui-ci.
Ben, c'est ça, tu sais. Puis en plus, ce qui est vraiment différent avec Blackgate, c'est que c'est pas un Batman Arkham comme les autres. Donc, on a voulu en faire un Metroidvania, là, entre guillemets. Donc, c'est un jeu en 2.5D où tu vas devoir utiliser différents gadgets pour récolter des objets. Donc, en tant que tel, le style même du jeu pourrait être n'importe quoi, là, pas nécessairement Batman. Combien de dérivés des Metroidvania on a vu au fil des ans. Donc, c'est un petit peu dommage au niveau scénaristique. C'est quand même présenté de façon intéressante dans le sens que plutôt que d'être en 3D, ben, les cinématiques sont en bande dessinée. Donc, le style est intéressant. Le contenu l'est un petit peu moins. Quoique j'ai bien aimé quand même retrouver Batman et Catwoman, qu'on n'avait pas vu ensemble depuis Arkham City. Donc ça, j'ai quand même aimé ça, mais c'est un peu limité. Au niveau du style de jeu, écoute, je savais pas trop comment l'expliquer. Disons que c'est un Arkham qu'on a voulu mettre sur portable, et comme on pouvait pas faire un univers aussi gros en 3D, ben on s'est dit on va le faire en 2.5D. Donc est-ce que c'est concluant? Oui puis non. Dans le sens que c'est quand même intéressant de naviguer à travers la prison de Blackgate. Le style Metroidvania fonctionne toujours. Pour ceux qui l'ignorent, ben comme je disais, c'est que tu navigues généralement de gauche à droite ou de droite à gauche. Là, tu peux retourner sur tes pas. Et tu as à découvrir des objets pour améliorer Batman. Donc ça fonctionne relativement bien. Le système de combat des autres Batman est utilisé de nouveau, et c'est toujours aussi efficace. Ça, j'ai bien aimé le fait que sur portable, on ait reproduit la fluidité puis la convivialité du système de combat. Dans le sens que tu vas pouvoir bouger avec ton personnage, mais tu vas pouvoir voir, exemple, quand il va attaquer là, avec des espèces de petits éclairs là, au-dessus de leur tête. Donc ça, c'est encore présent. Puis t'as juste un bouton à peser pour frapper, puis un autre pour contre-attaquer. Donc des combos, tu peux en faire, ça peut monter assez vite, puis ça, c'est toujours aussi intuitif. Le problème, c'est que, tu sais, dans les autres Arkham, quand tu réalises des combos, ben, t'acquiers des points d'expérience les points d'expérience qui vont avec. Là, dans Blackgate, il n'y en a pas de points d'expérience. Donc, dans le fond, que tu fasses un combo de deux coups ou que tu en fasses un de 30, il n'y a pas de différence à part flatter ton ego. Tu sais, fait que dans le fond, ça te donne pas grand chose d'être bon au combat. Je te dirais à part pour pas manger de dommages. Là,
c'est dommage parce que c'est un des moteurs dans les jeu de console de salon, c'est un des moteurs qui t'amène à vouloir te défoncer, qui te mène à vouloir justement explorer, parce que il y a aussi des bonus sur la variation des mises à mort que tu utilises pour avoir des bonus, tout ça. Ouais. Ça amène la complexité, tu sais. Là, tu fais du button smashing, finalement. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu y vas avec la voie facile.
Comme dans n'importe quel autre jeu, finalement. Ouais, c'est, ça n'a pas vraiment d'impact. Puis, comme je disais, le nombre de coups que tu vas réaliser pour un combo, ben ça donne pas grand-chose en bout de ligne. T'sais, moi, bon, j'étais bien excité là, quand je voyais un x10, x20, là, mais ça me donnait rien là, en bout de ligne. Donc, parce qu'il n'y a pas de points d'expérience dans le jeu. Donc, Batman ne s'améliore pas avec des points d'expérience. Donc ça, je dirais, c'est un bel engin de combat qui a été bien reproduit, mais auquel il manque peut-être une finition, tu sais. C'est une espèce de récompense pour le joueur. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ce qui fonctionne pas bien dans Black Gate, c'est au niveau de la navigation. Comme je le disais, oui, tu sais, ça marche bien de naviguer de gauche à droite, mais à un moment donné, c'est parce que tu peux aussi te promener en profondeur. Donc, tu peux aller de bas en haut ou de haut en bas. Et ça, c'est pas toujours évident. Généralement, c'est scripté. Donc, dans le fond, Batman bouge automatiquement dans différentes directions. Mais ça arrive que des fois, ça l'est pas. Et là, que tu dois atteindre une plateforme qui est complètement en arrière-plan, quand tu le sais pas, c'est pas toujours évident. Et là, la carte t'aide pas non plus. C'est une carte hyper simple en 2D, donc flat, là, ça, on peut dire ça comme ça. Donc c'est flat, ça aide pas, tu te repères pas bien avec ça. Et moi, honnêtement, j'ai failli lâcher le jeu à un moment donné parce que, je portais pas nécessairement attention à ce que Catwoman me disait. Mais ça aussi, c'est un peu le reflet de ma vie de couple aussi.
T'étais omnubilé par d'autres choses.
Oui, mais c'est une voix féminine qui me parlait, puis je faisais comme bon, je vais écouter à moitié ou pas partout. Non.
Fais le ménage, fais la vaisselle.
Fait que non, mais dans le fond, c'est parce que je portais pas vraiment attention, mais pourtant ce que Catwoman me disait, c'était un indice d'où aller. Et là, vu que j'ai pas porté attention, je savais plus où aller. Et la carte m'a pas aidé pour savoir où était mon prochain objectif. Et honnêtement, c'est pas super agréable de retourner sur ses pas. Ce qui fait la beauté des Metroidvania, c'est justement, tu sais, tu retournes sur tes pas, tu peux utiliser tes nouvelles techniques pour ouvrir des passages, trouver d'autres objets. Dans Black Gate, c'est pas aussi intéressant. J'ai un peu de misère à trouver pourquoi, mais tu sais, t'as pas nécessairement envie d'explorer les environnements pour trouver des objets, pour améliorer Batman. C'est plus ou moins intéressant. Peut-être c'est à cause de la navigation. Peut-être que c'est aussi à cause du style de jeu qui est moins prenant que s'il avait été complètement en 2D. Je sais pas, mais c'est moins intéressant. T'as pas envie de tout réexplorer, finalement d'ouvrir des possibles passages parce que, bon, ça te prend quand même un certain temps avant de trouver tous les gadgets de Batman. Gadgets qu'on a d'ailleurs vu dans tous les jeux Arkham, donc il y a pas vraiment de surprise à ce niveau-là. Je dois dire aussi qu'il y a une faiblesse au niveau des récompenses qu'on peut obtenir, dans le sens que, je vais prendre un exemple, là, dans la première section qui est celle du pingouin, ben, tu peux briser une vingtaine de cages qui renferment des pingouins. Grosse surprise. Hein? Fait que, dans le fond, et en brisant ces 20 cages-là, en les trouvant puis en les fracassant, ben, tu vas pouvoir débloquer une image.
Ben oui.
Ça, c'est ta récompense.
C'est peut-être pour ça que le backtracking n'est pas intéressant. C'est peut-être parce que les bonus ne le sont pas.
Ben, écoute, il y a des bonus qui sont quand même intéressants dans le sens que améliorer la vitalité de Batman, ça, bon, tu sais, c'est quand même toujours intéressant d'aller trouver. Tu sais, il y a des jeux, c'est des corps de cœur. Il y en a d'autres, c'est comme dans Batman, c'est des espèces de gadgets WinTech.
Y a-tu des bocales avec des fées? Parce que là, tu viens de me parler de corps de cœur, là.
Non, mais c'est un exemple par rapport à un autre jeu dont je parlerai prochainement.
OK.
Mais, en fait, non, il n'y a pas de fée dans Batman. Ça pourrait être un futur ennemi, par exemple.
Dommage.
Ouais, non, dommage, mais ça. Mais, tu sais, c'est. Je pense que oui, effectivement, il y a un manque d'intérêt à cause de la faiblesse de ce que tu peux débloquer. tu sais, vu que c'est pas super intuitif, en tout cas, pour une certaine dimension de jeu, ben, je te dirais que retourner sur ses pas, devoir, tu sais, naviguer à travers certains segments qui peuvent être assez longs pour aller rejoindre un point qui est très loin, ben, c'est plus ou moins intéressant. Donc, dans le fond, c'est les grosses faiblesses de Blackgate. Le jeu est pas très long non plus. Je vous dirais 5 heures, vous allez l'avoir fini. 7 peut-être si vous voulez le terminer à 100%. Donc, tu sais, c'est pas un très long jeu, là. C'est très loin du contenu qu'on peut avoir dans les autres Arkham. C'est pas un mauvais jeu. Honnêtement, j'ai quand même eu du fun dans le sens que naviguer à travers les niveaux, c'est bon, outre les problèmes de certains problèmes de navigation, dont la carte là, qui pose problème, c'est pas inintéressant. Le système de combat marche bien. Utiliser le grappin aussi, ça fonctionne relativement bien. Mais c'est clair que c'est pas le jeu que ça aurait pu être. Quand j'avais vu la description du jeu avant sa parution, j'étais comme, aïe, tu sais, un Batman en 2.5D, style Metroidvania, ça peut bien fonctionner avec l'univers de Arkham. Finalement, ça s'est ramassé en un jeu qui est plutôt moyen. Donc, c'est un peu dommage. J'avais pas de grandes attentes, mais j'espérais quand même avoir droit à quelque chose d'un petit peu mieux.
Une note, Daniel?
Écoute, toi, t'as donné un 7. Là, j'étais comme, moi aussi, je vais donner un 7. Finalement, il va falloir que je me révise.
Mais non, mais
j'irais pour un 6.5.
Tu sais, Daniel, mon impression du jeu n'est pas nécessairement la même que toi. Si toi, Origin, dans ta tête à toi, vaut un 8, ben, tu sais, Blackgate peut valoir un 7. Là. C'est pas le même 7 parce que c'est toi et moi, là.
Moi, Origin, c'est le jeu de l'année, fait que ton 7.
Mais je suis pas sûr.
Je pense que je vais y mettre un 6.5. Honnêtement, écoutez, je suis même pas capable de le recommander si vous voulez avoir l'expérience complète vu les faiblesses scénaristiques. Prenez-le si vous aimez les Metroidvania, si vous êtes vraiment un grand fan de ce style de jeu-là, mais n'ayez pas de grandes attentes parce que vous risquez vraiment d'être déçu. Ça fonctionne bien en certaines occasions. Il y a différents problèmes, par contre, qui vont gâcher votre expérience globale. Donc, c'est un peu dommage, mais comme tu as dit avec Arkham Origin, on aurait pu faire mieux.
Ah, c'est peut-être le mot d'ordre pour aujourd'hui. D'ailleurs, Luc, toi, ton film, on aurait peut-être pu faire mieux.
Ça aurait pas été tellement difficile. Mais bon, je vais vous parler de Lego Batman The Movie. En anglais, c'est ça, Lego Batman The Movie. DC Super Heroes Unite. En français, c'est Lego Batman, le film, l'unité des super-héros. Bon, c'est un film qui est basé sur l'univers Lego. Si vous avez joué au jeu Lego Batman 2, DC super-héros, je vous dirais, passez votre tour. Si vous ne l'avez pas joué et vous n'avez pas l'intention de le jouer, je vous dirais que c'est un petit film que vous pouvez regarder en famille. C'est quoi l'histoire du film? C'est simple. Batman va avoir besoin de ses collègues de Justice League, la Ligue des Justiciers, pour être capable de venir à bout du Joker et de Lex Luthor et de bon, plusieurs méchants connus de la franchise de Batman, dont Bane, Harley Quinn, le Pingouin, toutes les plus connues, Catwoman. Bon, Batman a besoin d'aide parce qu'il n'est pas capable de se battre tout seul contre tout ce monde-là. Puis il va appeler d'autres super-héros à la rescousse pour venir l'aider. Donc, le film slash jeu, parce que, un des côtés qui m'a déçu du film, mais que je m'attendais beaucoup, c'est que finalement, on a pris les cinématiques du jeu, puis on a fait un film avec ça, puis on a pris les sections où on joue, puis on a rempli ça avec une autre cinématique. Donc, si vous avez joué au jeu, ben il y a beaucoup de choses que vous allez vous dire, ben j'ai vu ça quelque part, me semble. Oui, vous avez vu ça dans le jeu. Puis bon, vu qu'on peut pas vous faire jouer sur votre télé en regardant un film, ben on a pris ce qui se passe entre les cinématiques, puis on a résumé ça en un bout de film qu'on rajoute à travers les cinématiques du jeu. Donc, l'histoire commence, on est dans un gros party à Gotham où Bruce Wayne et Lex Luthor sont en compétition pour gagner le trophée de l'homme de l'année. C'est Bruce Wayne qui gagne, c'est pas un spoiler, là, l'histoire commence comme ça. Et puis, ça fait pas l'affaire de Lex Luthor qui déteste Bruce Wayne, il le trouve arrogant et tout ça. Bon, venant de Lex Luthor, c'est pas rien quand même. Là.
Non, j'avoue.
Le gars, un des plus méchants, dans... dans cette histoire-là, on garde l'idée qu'Alex Luthor aimerait être président des États-Unis. Là. Il y a plusieurs histoires différentes dans l'univers de Superman où, bon, Alex Luthor fait des choses différentes. Dans cette lignée-là, il veut devenir président des États-Unis. Donc, il perd le concours de Monsieur Univers, là, non, l'homme de l'année. C'est Bruce Wayne qui le remporte, mais ça fait pas l'affaire du Joker. Joker qui arrive avec sa gang de malfrats, là, sa gang de copains méchants, le Sphinx, Double Face, Catwoman, puis avec le Pingouin. Puis là, il rentre dans la salle où se passe l'espèce d'événement. Et puis là, bon, on vole, il ramasse le trophée, se sauve avec. Et puis là, bon, tout le monde se met contre Batman et Robin. C'est sûr, bon, Batman réussit à toutes les battre, spoiler. On les envoie tous en prison. Et puis, bon, comme de raison, ils vont tous se sauver de prison pour venir se venger de Batman encore. Lex Luthor et le Joker vont s'allier dans ce film-là. Bon, le Joker qui vole la montre en or de Lex Luthor quand il est à la table, puis qui vole les portefeuille, puis l'argent de tout le monde, puis les bijoux dans la salle où se passait le prix de l'homme de l'année. Retourne en prison à Arkham pour... Oui, parce qu'on est encore à Arkham dans ce film-là. Arkham joue un rôle bien, bien important dernièrement, surtout dans tout ce qui se passe dans Batman. Là.
Il me semble qu'on a découvert la place, puis on fait comme, oh, OK, on va tout faire là.
Non, il y a eu beaucoup de films puis de beaucoup de comic books qui ont rapport avec Arkham. Là. Arkham prend toujours une place majeure parce que c'est toujours là que ou Blackgate là, que Batman envoie ses plus méchants, qu'on pourrait dire. Donc, ça ramasse là-dedans. Et puis, c'est ça. Donc, on va encore à Arkham. Lex Luthor rentre là, libère le Joker, récupère sa montre. Lex Luthor a une arme intéressante qui a rapport au jeu, parce que si on n'était pas vraiment dans un film-jeu, ça tiendrait plus ou moins la route. Mais il y a une espèce de fusil à rayon qui est capable d'affecter seulement les objets en briques Lego noires. Donc, tout ce qui appartient à Batman, tous les murs noirs, il peut les défaire avec ce fusil-là. Donc, les murs de Arkham sont tous noirs. Donc, il prend le fusil pour défaire les murs et laisser s'échapper tout le monde de Arkham pour qu'il puisse aller réattaquer Batman.
Vite une couche de peinture?
Ouais, c'est ça, vite une couche de peinture, on met ça dans nos couleurs pour on va être correct. Mais bon, c'est ça, donc le Joker et Lex Luthor qui se joignent pour battre Batman et Superman. Superman est aussi dans l'histoire dès le début, mais on voit bon qu'il y a de l'animosité entre Batman et Superman, c'est vrai aussi dans certains comic books. On s'aperçoit que bon, le Joker, ce qu'il veut, celui, ce que Lex Luthor veut, c'est de la kryptonite pour se débarrasser de Superman, mais le Joker, lui, veut se débarrasser de Batman. Donc, il dit, tu sais, quand je vais t'aider, tu vas m'aider, puis on va se débarrasser des deux, puis on va être super beaucoup mieux parce que les super-héros sont pas là. Donc, ils veulent se débarrasser des deux. Et puis, vu que, bon, Lex Luthor veut devenir président des États-Unis, le Joker dit, ben moi, je pourrais devenir ton vice-président. T'sais, bon, Lex Luthor n'est pas trop sûr de vouloir avoir ce genre de gars-là comme vice-président, mais bon, c'est un peu la prémisse. Ils sont ensemble. Ils essayent de voler de la kryptonite. Donc, il fabrique une kryptonite artificielle qui a aucun effet contre Superman, mais ça va attirer Batman dans un piège. Parce que, comme dans une bande dessinée, je me rappelle pas si c'est dans lequel, je me rappelle pas si c'est dans le livre de Frank Miller ou si c'est dans The Dark Knight Returns, mais en tout cas, j'en ai trop lu dernièrement des livres de Batman, je mélange un peu les histoires, mais il y a Batman qui tient une espèce d'inventaire de kryptonite au cas où que Superman déciderait de virer de bord puis devenir méchant. Donc, il pourrait arrêter Superman avec la kryptonite. Il y a un film qui va passer à Télétoon, je pense que c'est le week-end prochain, qui est un film de Justice League, qui va un peu dans cette histoire-là où Batman connaît le talon d'Achille de tous ses amis, en gros guillemets, de la Justice League. Et puis... eux autres vont pouvoir, avec ça, il peut mettre fin à une menace si jamais ce super-héros-là vire de bord puis devient méchant.
C'est drôle parce que ça s'est repris dans pas mal maintenant d'histoires basées sur DC Comics. Je me rappelle dans Injustice, c'est la même affaire.
Ouais, c'est ça. C'est comme si Batman fait pas confiance à personne puis pense que n'importe qui peut virer son chapeau de bord d'un côté, d'un moment donné puis juste virer méchant. Il y a même, je pense, dans certains livres, il y a même une manière de se contrer lui-même. Si jamais il viendrait méchant, il serait capable de se contrer lui-même. Donc, il planifie contre tout le monde, finalement. Donc, c'est ça. Donc, ils vont s'allier pour battre le Joker et Lex Luthor. Bon, on va voir les autres super-héros. On va voir Green Lantern, on va voir le Martien Manhunter, on va voir Commissaire Gordon, on va voir même Wonder Woman, Robin, le Flash et tout ça. Tranquillement, mais c'est vraiment vers la fin du film où vraiment, on dirait que c'est assez sérieux pour que tout le monde vienne les aider. Tout le long du film, c'est pas mal Batman, Superman, puis Robin qui est tellement comme en amour avec le fait que Superman est si fort et si... Bon, il est pas en amour avec, là, on va se garder des petites gênes.
Mais non, il est en amour avec Batman.
Il est en admiration avec, devant Superman, puis Batman, pas tellement, tu sais. Lui, c'est tout comme, ah ouais, c'est ça, tu sais. On n'a pas besoin de lui, tu sais.
Lego Batman 2.
Ouais, c'est vraiment... Si vous regardez le film, ça vous donne rien de jouer au jeu parce que c'est les mêmes cinématiques puis c'est les mêmes affaires que vous allez voir en jouant au jeu. Moi, j'avais commencé le jeu avec ma conjointe parce qu'on joue tous les jeux de Lego ensemble. Puis on s'était tanné à un moment donné parce que, bon, comme on a déjà parlé, je pense que c'est dans le show... Pas le dernier, mais peut-être le show d'avant, quand Daniel faisait la critique de Marvel super-héros. Mm-hmm. Ils ont changé un peu la sauce, mais pas nécessairement pour le mieux. Fait qu'à un moment donné, au début, on était pris dans un jeu de Lego où tu pouvais absolument rien faire puis en te séparant. Puis que si tu te séparais trop loin, il te ramenait, il en sortait un du jeu, puis il le ramenait plus proche de toi. Puis tu ne pouvais pas aller chercher des objets à des espaces trop distancés. Ça ne fonctionnait pas. À un jeu où il t'oblige maintenant à aller faire des choses vraiment distancées un de l'autre, puis l'écran est tellement coupé en deux que tu ne vois pas nécessairement où tu t'en vas, les petits rebords, tu te ramasses toujours à tomber. C'est vraiment mal fait. Donc, on a complètement décroché. Fait que là, au moins, je sais comment le jeu finit parce que j'ai vu le film. Mais tu sais, si vous jouez au jeu, regardez pas le film tout de suite parce que c'est vraiment spoiler. C'est la même histoire, c'est la même chose. Ça s'en va exactement à la même place. Si vous n'avez pas l'intention de jouer au jeu, vous pouvez toujours le louer. Je vous conseille vraiment pas de l'acheter. Ça dure 71 minutes, donc 1 heure et 11. Puis, c'est pas nécessairement super bon. Si vous le regardez en anglais, c'est pas les voix habituelles de Batman. La voix de Batman depuis les années 80, 90, c'est Kevin Conroy. Dans ça, on a pris quelqu'un d'autre qui a quand même doublé Batman quelques fois, là, mais c'est vraiment pas Kevin Conroy. En français, on est chanceux. C'est vraiment la même voix qu'on est habitué d'entendre. C'est Adrien Antoine là, qui fait la voix de Batman. C'est lui qui le fait dans les séries, dans les films à la télévision. Si vous regardez La Ligue des Justiciers ou des choses comme ça, les séries de Batman récentes, c'est lui qui fait la voix de Batman. Donc, on se retrouve. Superman, c'est la même chose. C'est le même gars qui fait les voix dans les films puis dans les jeux vidéo, même probablement dans Arkham Origins. C'est probablement Adrien Antoine qui fait la voix de Batman là-dedans, parce qu'il est vraiment, c'est comme lui qui est attitré à doubler Batman en français présentement, là. Donc ça, au moins, c'est bien. Les voix, on les reconnaît, puis ça fait du bien. Mais pour le reste, le film est plus ou moins intéressant, là. Comme je dis, c'est des cinématiques de jeu qu'on a mixées ensemble, puis qu'on a finalement bouché les trous avec d'autres cinématiques. C'est bien fait, par exemple, les cinématiques sont belles. Puis ils ont réussi à faire ça. Pourquoi? Ben parce que dans les jeux, puis je pense, si je me trompe pas, Batman DC Super-Héros, Lego Batman 2 DC Super-Héros, c'était le premier jeu de Lego où les personnages parlaient. Avant, c'était tout du marmonnage, puis avec des signes où on nous montrait ce qu'ils voulaient dire, mais ils parlaient pas. Dans Lego Batman, ils ont introduit les voix, ce qu'ils ont aussi fait dans le jeu de Marvel. Fait que c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire un film avec ça. Sinon, ça aurait été un peu comme ordinaire d'avoir des personnages marmonner pendant 1h11. Mais c'est quand même plus ou moins intéressant. Je vais plus aller vers ce que Daniel a donné, qu'il a donné un 6.5, toi t'as donné un 7. Moi, je donnerais comme un 6. C'est un divertissement correct. Achetez-le pas vraiment, allez le louer. C'est un film que vous allez regarder en famille une fois. Vous allez peut-être trouver certaines petites passes drôles. Mais je pense que je serais surpris que vous alliez décider de le regarder une deuxième fois.
Ouais. Ça me fait penser, on dirait que finalement, Lego a devancé la gang de Final Fantasy. Ça fait des années qu'ils nous disent « Ah, les cinématiques sont tellement importantes, tu pourrais mettre bout à bout pour faire un film. » Voilà, c'est fait avec, avec Lego Batman.
C'était Bobby Kotick d'Activision qui disait ça.
Ah, c'est Bobby Kotick. Moi, j'étais sûr que c'était... Ben, c'est vrai que la gang de Final Fantasy, on finit par faire un film pour vrai, donc...
Bon, ouais, mais c'est ça, c'était Bobby Kotick qui disait que les cinématiques étaient tellement bien faites dans les jeux maintenant que si tu mettais une après l'autre, ça te ferait un film. C'est parce que tu manques l'heure et demie, peut-être, de jeu que t'as entre les deux cinématiques.
Exact.
L'histoire n'est pas nécessairement bonne. Puis un gars, si vous voulez vraiment voir ça, je l'avais posté, ça fait longtemps, sur, je pense que c'est sur Twitter, là, mais allez voir sur YouTube, il y a une vidéo vraiment où le gars prend, je pense que c'est un Call of Duty ou quelque chose comme ça, puis il met juste les cinématiques une après l'autre, puis ça, c'est comme... sans ni queue ni tête, là, tu sais, ça n'a pas rapport une après l'autre, parce que là, tu dis, OK, on va aller en mission, puis on va tuer ce gars-là. Ah, on a tué ce gars-là. Tu sais, c'est comme, il te manque un bout d'histoire.
Non, c'est ça.
Mais c'est Bobby Kotick qui a dit ça.
Non, je pense, il me semble que c'est Bobby Kotick.
Bon, ben, on attend le film Skylanders.
Ça s'en vient.
Mais ça c'est un univers qui devrait faire un film dedans, puis il ferait tellement des gazillions de dollars avec ça. Ben, je suis sûr que tous les petits-enfants qui ont joué au Skylanders devraient aller le voir, et leurs parents, parce que certains parents ont quand même apprécié la série. C'est une histoire qui est quand même intéressante.
Mais tu mettrais pas ça plus en série animée?
Peut-être en série animée, mais un film d'animation, ça pourrait être pas pire. Ils pourraient faire comme ils ont fait avec Star Wars, le Clone Wars. Ils ont fait un film qui est sorti au cinéma, puis qui était comme le pilote. Puis après ça, ils enchaînaient avec la série télévisée. Ils pourraient toujours faire
même chose avec les
genre
Pokémon.
Là.
Il y avait une série télé, puis il y a eu des films par la suite qui entrecoupaient.
J'ai acheté le premier, puis j'étais sur le bord des larmes, OK? À toute fin du premier.
Ah oui, c'est on peut-tu faire le spoil? Il me semble que ça fait assez longtemps que c'est sorti, ça.
Oui,
c'est long. Ce n'était qu'un rêve.
Oui.
Ils l'ont vécu vrai. Pour vrai, mais ce n'était qu'un rêve.
Oui, mais quand Ash il s'est transformé en pierre, sérieusement, puis quand j'ai vu Pikachu en train de pleurer, puis tous les Pokémon pleurer, ben j'avoue que j'ai envie de pleurer. Merci.
Quand je dis là, que j'aime pas trop la science-fiction parce qu'il y a toujours des affaires incohérentes qui arrivent puis que tout d'un coup, oups, ça apparaît pour dénouer une situation, c'est un exemple parfait. Toutes les lames de Pokémon mises ensemble, ça permet de détransformer quelqu'un qui est en pierre et de le retourner en forme humaine. Tout d'un coup, de même.
C'est ça. Mais personne ne le savait, puis il a fallu faire tout broyer que Pokémon en même temps pour le savoir.
Voilà.
C'est ça. Hey, t'as-tu déjà vu un Bulbasaur pleurer? Je te le dis que ça te donne des émotions.
Ah, moi, ça m'écœure, ces affaires-là. Là. Quand tu peux pas le rattacher à nulle part, là, puis là, tout d'un coup, ça apparaît pour dénouer une situation. Là. Moi, boy, j'ai de la misère avec ça.
Ouais. Fait que c'est ça. 6 sur 10, ne pas acheter, juste louer, puis regarder-le une fois, puis retournez-le et passez à autre chose.
Oui, passez à d'autres choses. On va y aller avec d'autres choses. Justement, on voulait jaser un peu des films de Batman de Christopher Nolan, entre autres Rises. Je me le suis tapé aujourd'hui même pour pouvoir en discuter. C'est frais dans ma mémoire.
Ça va être frais. Le film, on peut pas dénier que le film est excellent. C'est super bien réalisé, tout ça. Même si malheureusement, on aurait aimé ça avoir une suite avec le Joker, mais Heath Ledger nous a été enlevé un peu trop rapidement.
Il s'est pas mal enlevé tout seul, on va se le dire, là.
Ouais, mais c'est un accident, là. C'est pas quelque chose qui était voulu. Mais bon, en tout cas, on ne saura vraiment jamais, mais selon les autopsies, c'était vraiment un accident. Ça aurait été bien de voir une suite avec le Joker parce que, bon, pour une fois, Nolan avait été assez intelligent pour ne pas se débarrasser du vilain puis de le tuer comme Tim Burton avait fait dans le premier Batman, là, qui était un coup dur. Là.
Mais c'était prévu. À l'origine, c'était prévu.
Ouais, c'était prévu qu'il revienne, puis là, il n'a pas pu, donc il s'est en allé sur quelque chose de totalement différent. Il y a des choses qui accrochent, là, je veux dire, tu sais, toute l'histoire-là, j'espère que c'est pas spoiler, là, ça fait quand même quoi 2 ans que le film est sorti. Là. J'espère que vous l'avez tout vu, mais tu sais, je veux dire, le plan de Bane, puis de Tania Al Ghul est comme tellement complexe pour rien. Là. Pourquoi tu veux faire sauter une bombe qui est en dessous de la ville, qui va être un espèce de réacteur propre qui va pouvoir donner de l'énergie à toute la ville, puis que tu veux le faire exploser lui, puis tu as besoin d'avoir un plan si compliqué que ça, tant que mettre plusieurs petites bombes dans plusieurs petites places à Gotham aurait été comme peut-être bien plus efficace. Puis, mais mon plus gros problème, moi, c'est Batman qui prend 8 ans de congé. Là. OK? L'histoire est simple. Là. Batman prend 8 ans de congé parce que sa blonde s'est fait tuer par le Joker.
Non, non, la dépression, c'est fort. Là. C'est une maladie. Là. Pas ridiculiser.
Mais regarde, juste ce que je veux en venir, là, c'est que Batman a perdu ses parents quand il était jeune. Il a vu mourir en avant de lui. Puis c'est ça qui a fait qu'il est devenu Batman. Puis tout d'un coup, sa blonde, qui est même pas sa blonde, là, parce qu'elle sort pour de vrai avec double face. Là,
non, mais il sait pas, lui.
Elle meurt, puis tout d'un coup, ça, c'est une raison pour finalement virer son capot de bord et décider, non, finalement, ça me tente plus. T'sais. Fait que je trouve ça un peu bizarre. Puis dans les comic books, Batman n'arrête jamais. Il y a un comic book où Batman est vraiment certain que c'est sa dernière heure, qu'il va mourir, puis tout. Puis ses dernières pensées, c'est « Mais je peux pas mourir aujourd'hui parce que j'ai pas entraîné personne pour prendre ma place, t'sais. Donc je suis pas prêt. » Il pense pas « Ouais, moi, je vais prendre 8 ans de break. Si jamais je perds ou je vais me sauver, je vais prendre un congé de 8 ans. » T'sais. Batman se bat toujours, puis va se battre jusqu'à son dernier souffle. Puis ça, c'est l'histoire des comic books. Puis je trouvais ça un peu fatigant. Puis que la seule chose qui fait que Batman décide d'aller se rebattre, c'est que Catwoman, qui est jouée par Anna Tawai, qui fait quand même une bonne job dans le film, mais qui est jamais, jamais, au grand jamais référencée comme étant Catwoman, même si elle est habillée en femme chat, jamais il l'appelle Catwoman.
Non,
il l'appelle Selina Kyle ou il l'appelle d'autres choses, mais jamais
dans
Catwoman.
Dans les journaux, il l'appelle The Cat.
Bon, oui, c'est ça, mais il ne référence jamais comme Catwoman.
Non, c'est
vraiment
ça.
Comme on veut pas se lancer dans le fait de nommer le personnage, même si on sait exactement qu'est-ce qu'elle est. Fait qu'il y a ça un peu qui me tape ses nerfs. Puis la seule raison qui fait qu'il décide tout d'un coup de se réintéresser à battre les criminels, c'est que, hop, Catwoman est venue pour voler le collier de sa mère chez eux. Bon, ça fait que ça tente de recommencer à te battre contre le crime, mais de voir du monde se faire tuer. Parce qu'ils disent que le crime a diminué, mais le crime n'est pas totalement parti quand même de Gotham. Il reste des crimes, c'est juste que les plus gros criminels sont tous partis. Fait que c'est des choses un peu qui sont un peu fatigantes. Puis le fait qu'il a été guéri en 30 secondes, puis quoi, personne n'a pensé peut-être qu'il donnait ça avant cette bidule-là, tu sais. Peut-être qu'il n'aurait pas pris 8 ans de break s'il avait donné cette bidule-là d'un coup. Puis quoi, tu peux défoncer un mur tout d'un coup avec ça. Tu sais, il y a des choses incohérentes. Puis j'aime pas de la manière qu'ils ont fini le film aussi.
Avec Robin.
Avec Robin, qui n'est pas Robin parce que ça n'a jamais été... Robin, ça a été Tim Drake. Ça a été plusieurs personnages, mais ça n'a pas été lui.
T'sais, mais... Écoute, moi, je pense que j'ai plus aimé le film que vous. La seule affaire...
Non, moi, je l'adorais. Moi,
mais...
j'ai rien dit.
Okay,
je laissais Luc aller, là, mais check-moi bien aller.
OK, ben écoute, parce que, dans le fond, quand j'ai vu la première fois de Dark Knight Rises, j'étais allé au cinéma avec ma blonde. Ma blonde ne connaît pas vraiment l'univers de Batman. Et là, pour elle, ça a été une grosse surprise, Robin, tu sais. Puis c'était comme, ah, c'est bon, c'est bien fait, puis tout. Moi, honnêtement, je l'avais vu venir. Là, je me suis dit, c'est clair, c'est Robin.
Oui.
Ils ont quand même pas pu engager Joseph Gordon-Levitt juste pour un petit rôle secondaire. Fait que je l'ai vu venir. Sauf que je me disais, oui, mais c'est aucun Robin qui existe dans la mythologie de Batman. Donc, pour un connaisseur, ça faisait pas de sens. Puis, c'est ça. T'sais, à la fin, c'est comme, là, Robin est là, puis... Ça finit comme ça.
Ouais, mais vous faites l'erreur encore de placer le film dans sa mythologie globale de bande dessinée.
Mais
ce qui n'est pas le cas.
Dommage. Excuse-moi, j'en vais
demander. Vas-y, vas-y, vas-y.
Tu pourrais y aller. Là. Je te couperai plus. Mais ce que je trouve dommage, c'est que même pour un connaisseur, tu sais, je dis pas que je suis un aussi gros fan de Batman que je le suis de Superman, mais en fait, je trouvais ça intéressant comment qu'il a amené Bane. Je trouvais que l'histoire de Bane est intéressante. Honnêtement, comment Talia al Ghul est arrivée, je l'ai pas vu venir. Ça aussi, je trouvais ça intéressant. Donc, la construction du personnage de Bane, honnêtement, j'ai trippé. Mais celle de Robin, là, j'ai... c'était comme trop poussé. C'était comme genre, hey, faudrait bien plugger Batman. Pas Batman, faudrait bien plugger Robin à un moment donné dans cette trilogie-là. Bon, attends, ils ont une petite place à la fin. J'ai trouvé que c'était comme un peu broche à foin. T'sais. Fait que,
C'est un prétexte. Moi aussi, j'ai pas vraiment aimé le fait que. Puis c'est totalement à la fin dans une série pour laquelle ça apporte absolument rien parce qu'il n'y aura pas de suite à cette série-là.
Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu veux pas le savoir. Tu veux pouvoir te l'imaginer, mais tu veux pas te le faire raconter ce qui va arriver avec Robin. T'sais. Est-ce qu'il va se faire entraîner par Batman qui va revenir? Est-ce que, t'sais, c'est ça qui est le fun avec cette fin-là. C'est que c'est une fin ouverte et qu'il n'y aura jamais de réponse. Moi, c'est ce que je trouve intéressant. Et je fais juste penser, là, on a parlé de Superman la semaine passée. Pour vous deux, des amateurs de Superman, le fait que Zod meure dans le film, ça, pour vous, c'est une grosse patente. Moi, pour moi, qui n'est pas un amateur de la série, je le prends le film comme étant en lui-même une œuvre à part entière qui n'a aucune connexion avec le reste. S'il y a bien un médium dans lequel on réinvente des personnages pour part à zéro, pour faire des affaires pour réactualiser ou pour simplement changer, là, c'est bien dans le domaine du comic book. Tout se fait, tu sais. Des origin stories, il y en a, puis il y en a, puis il y en a pour les personnages. Il y a des bases qui demeurent. Mais après ça, la liberté est toujours là, dépendamment si tu veux y aller plus dark, plus rigolo, plus jeune, plus... Écoute, il y en a, là. Ça fait, donc, un film de Batman ou de Superman, dans lequel il y a des affaires qui ne cadrent pas avec la mythologie dite principale, pour moi, ça n'a aucun impact. Est-ce que le film... Excusez-moi, est-ce que le film était bon? Est-ce que le film se tenait en lui-même? Oui, tu sais. Puis il n'y a pas de problème scénaristique majeur, si ce n'est que, tu sais, si tu veux vraiment faire péter la ville de Gotham, niaise pas, là. Attends pas 5 mois, là. Tu sais, déniaise. Fallait de suite, puis ça va être fait, tu sais. Pourquoi 5 mois, tu sais, le temps que le cœur du directeur s'essouffle ou pas tant de choses. Puis, tu sais, il y a des erreurs de chronologie, là, des temps qui sont pas très, très bien suivis, là. Tu sais, il reste 1:50 avant que la bombe explose, puis là, tout le monde prend le temps de se jaser puis de se donner des becs. Ça, c'est un peu ordinaire, mais tu sais, ça n'a pas un impact majeur sur le déroulement du film, si c'est plausible ou non. Je fais juste penser, entre autres, à une bande dessinée dans laquelle on revisite le Batman, son origin story et celle du Joker. On apprend que, finalement, le Joker serait la mère de Batman dans ce storyline-là. Tu sais, y a-tu une origin de Joker qui est plus out of nowhere que celle-là?
Ouais, et pourtant, ça, c'est dans Flash Paradox, c'est dans un univers parallèle. Fait que ça, il y a des comic possible. Books qui ont été là-dedans, les univers parallèles.
Tu sais, je pense à la bande dessinée de Superman, Red Son, où est-ce que Superman serait atterri en URSS. Tout est possible dans le domaine de la bande dessinée, tant que ça fait une bonne histoire. T'sais, on arrange les paramètres comme on veut là, pour que ça amène un résultat. Donc, Robin arrive à la fin, puis il rise avec avec le rocher qu'il lève, puis il découvre la Batcave alors qu'il n'a jamais été formé, puis qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, ça n'a aucune espèce d'impact, parce que je me dis, s'il y a un domaine dans lequel tu peux jouer avec la mythologie, c'est bien dans le cadre d'un film de super-héros, tu sais.
Sauf que, tu vois, Robin, je me rappelle de Batman Forever, qui est vraiment pas au niveau de The Dark Knight Rises, mais quand Robin avait été intégré dans Batman Forever, j'avais trouvé ça un peu plus intéressant. C'est probablement le seul point positif que je peux trouver en comparant les deux films, là.
Schumacher a quand même gardé les origines des personnages, des méchants, pas mal intacts pour la plupart.
Ouais. Ben écoute, parlant d'origine, justement, ce que j'avais trouvé vraiment, vraiment intéressant dans The Dark Knight Rises, comme je disais, j'ai beaucoup aimé la construction de Bane, mais moi j'ai trouvé ça vraiment le fun que Nolan mette de l'avant l'intelligence de Bane plutôt que sa musculature.
Exact.
Tom Hardy, on s'entend, il est quand même shapé. Mais là, on voit un Bane qui pense au lieu de frapper, ce qui fait un contraste total avec Batman et Robin. D'ailleurs, je l'ai revu il n'y a pas longtemps et en français, il ne s'appelle pas Bane, il s'appelle Calamité.
Ouais. C'était pas fort, ça.
Ah non, écoute, c'était...
C'est parce qu'il fallait que ça cadre avec les lèvres, hein, lors de la traduction. C'est Bane, Calamity, ça se prononce pareil, là.
Un calamité qui marche au jus.
Non, c'est ça. Mais au moins, l'origine de Bane dans ça, c'était ça. C'est que Bane marche au venin dans Batman The Dark Knight Rises. Il marche pas au venin.
Non, c'est un antidouleur. Là. C'est de l'aspirine. C'est un pu d'aspirine.
Du Tylenol.
Ouais.
Mais tu sais, au début du film, il y a une phrase qui lâche Bane là, quand il est dans l'avion. Là. Écoute, ça m'a marqué. Là. À un moment donné, il y a un criminel qui dit « Ouais, mais tu sais, j'ai plein d'argent, puis je t'ai payé, puis tout. » Puis Bane le regarde, puis il fait « Ouais, mais tu penses que parce que t'es riche, ça te donne des passe-droits? » Je fais « Oh, t'as... » J'ai dit ça, là, ça pourrait tellement être appliqué à plein de monde là, dans la vie réelle.
Non, oui.
C'est pas parce que t'as du cash que nécessairement t'as plus de respect là, ou t'as plus de privilèges. Fait que ça, honnêtement, là, ça j'ai fait. Ouais, là, tu vois le brio de Nolan, là, tu sais, les petites phrases clés ici et là. Fait que ça, vraiment, j'avais trouvé ça super intéressant. Là, puis ça m'a vraiment marqué comme. C'est comme premier pas dans la construction du personnage de Bane.
Trilogie de Nolan, votre ordre?
Dans qualité?
Ouais, du meilleur au moins bon.
Ben moi j'irais avec 2-1-3.
Ouais, moi aussi.
2-3-1. 1 étant, pour moi, là, complètement horrible. Juste la façon que les combats sont filmés, c'est dégueulasse.
OK. Non, mais c'est correct. Mais t'sais, tu parles de Bane, Daniel. Bane, dans les comic books, Bane est ultra intelligent. Parce que dans Nightfall, si vous avez jamais lu la série là, de comic book qui s'appelle Nightfall, qui est sortie dans les années 90, Bane laisse sortir tous les méchants, puis tous les même les prisonniers d'Arkham pour affaiblir Batman parce qu'il se bat jour et nuit. Il y a tout le temps quelqu'un qui court après puis il est toujours obligé de se battre. Puis quand que Bane se rend là, Batman est complètement épuisé puis il fait juste y briser le dos. Ils ont remis cette scène-là semblable là, du brisage de dos dans The Dark Knight Rises. Là. Mais tu sais, dans cette scène-là, Bane, il sait c'est qui Batman, il sait que c'est Bruce Wayne. Là. Pourquoi il n'a pas juste pris 5 minutes pour sortir dehors puis crier dans les rues de Gotham? « Hey, tu sais, Batman, là, c'est Bruce Wayne! » C'est fini.
Mais non, c'est une information privilégiée.
Ouais, peut-être, là. Mais quelque chose, il faudrait que quelqu'un m'explique à un moment donné pourquoi que toute la force policière de Gotham s'en va dans les égouts. Pourquoi qu'ils gardent pas un petit paquet de policiers en dehors pour aider?
Mais parce que
tout le monde s'en va dans les égouts.
Dans le film, c'est le personnage de Joe Gordon-Levitt, qui Robin, sans qu'on le connaisse sous ce nom-là, qui dit « Ah, sont là, sont placés là, ils ont mis des explosifs dans les poutres de béton en dessous de la ville pour faire écraser. Faut aller, donc, tu sais, ils savaient le périmètre où est-ce que les méchants étaient. Eux autres ont rentré, puis les méchants ont sorti. Je sais pas quand est-ce qu'ils sont pas croisés, là. Moi, c'est plus ce bout-là qui me cause problème. Mais si le but, c'était, hey, les méchants sont là, Bane attaque, c'est eux autres les pas fins, vite tout le monde, grosse force de frappe, tout le monde en service, on y va. Puis ils se sont fait pincer. Moi, c'est plus là, comment ça que les autres ont réussi à se sauver sans que. Qui me cause plus de problèmes. À un moment donné, ça prend des twists de même pour que ça avance. Là. Moi, c'est moins majeur que ce que j'ai pu voir dans Thor, mais ça. Bon.
En tout cas, côté tactique, tu te gardes toujours une petite force ailleurs au cas où qu'il arrive de quoi. Mais bon.
Ben oui, tu te gardes un Robocop.
Mais c'est vraiment un bon film. Il y a juste une couple d'affaires qui accroche, qui fait que pour moi, c'est pas le meilleur. Là. Mais c'est une excellente trilogie. Puis j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Batman versus Superman.
Je pense
avec Ben Affleck en tant que Batman.
Oui, avec Daredevil.
Ouais, c'est ça, Daredevil dans le rôle de Batman. Puis je voyais, j'ai pas re-regardé Daredevil depuis un bout de temps, là, mais je regardais juste l'espèce de bande-annonce que Télétoon mettait là, pour parce qu'il présentait le film, je pense, là, deux samedis ou quelque chose comme ça. C'est juste horrible. Là.
Moi, j'avais aimé Ben Affleck dans ce rôle-là.
Ah, peut-être, mais pas nécessairement moi. Mais bon, c'est pas nécessairement de sa faute, c'est plus le script aussi qui était pas super bon.
Moi, je trouvais que c'était bien représenté, le personnage étant aveugle, comment est-ce qu'il évolue à travers le monde, comment est-ce qu'on était en mesure de le présenter à l'auditoire, comment ça fonctionne, ses sens. Ça, j'ai bien aimé. Après ça, le gros méchant soit noir au lieu d'être blanc, alors que, c'est comme, on s'entend que c'est comme tu sais, j'arrête pas de vous dire, faut pas placer le film dans sa mythologie plus grande. Moi, ça m'avait accroché dans celui-là. La couleur de peau, là, je trouvais que c'était un peu forcé quand c'était facile de trouver quelqu'un, un gars de no-name, tu sais, de le mettre dans place, tu sais.
Vin Diesel.
Mais c'est comme avoir mis Lawrence Fishburne comme Barry White dans Superman, tu sais.
Ouais,
ça me dérange pas, mais c'est juste bizarre parce que ça a toujours... Barry White a toujours été un Américain blanc semi-détestable par bout. Là.
Hey, mais permettez-vous un dernier petit commentaire.
Ouais, sur après ça, on va mettre fin au show, par exemple.
Oui, pas de problème. Moi, je me suis demandé à la fin, par contre, est-ce que Nolan s'est pas gardé une porte ouverte avec la fin du film? Dans le sens que Nolan avait dit « Je veux plus en faire de Batman », tout. Mais est-ce que là, il s'est laissé une porte ouverte puis il s'est dit « Oh, en coque ».
Mais moi, la question que je me pose, c'est « Batman versus Superman ». Est-ce que c'est la continuité de Rises?
Non.
Non, c'est la continuité de Man of Steel.
Oui, c'est la continuité de Man of Steel, puis ils vont aller chercher un peu de contenu, peut-être, de Frank Miller ou ce qu'il y a un combat entre Batman, le Dark Knight Rises.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Batman retraite dans Rises, dans l'histoire de l'affrontement, de la nouvelle, la bande dessinée qui présente un combat entre Batman et Superman. Batman est similaire à la retraite, là, il revient aussi à l'activité, puis il est pas mal plus âgé que ce qu'il était auparavant.
Ouais, ça va être un style d'entre-deux, là, mais non, je penserais pas... Je penserais pas qu'il s'est laissé nécessairement une porte ouverte, même si Nolan est impliqué là, dans la nouvelle série de films de Superman. Je pense vraiment lui a terminé son histoire qu'il voulait nous présenter, puis il s'en va vers d'autres choses. Hein. Je penserais pas que c'est... Il a vraiment dit qu'il voulait pas en refaire, puis on y a offert de faire un autre Batman, puis il a dit non, qu'il était pas intéressé. Fait qu'on va voir ce que ça va donner.
Merci beaucoup les boys d'avoir été là. Je pense qu'on va mettre fin à l'émission là-dessus. Dites-moi, on va commencer avec toi, Luc. Où est-ce qu'on vous retrouve sur le web?
Vous, quand t'es avant, j'étais donc bien poli de
nous. Comme vous deux.
Sur Twitter, AskAlazormo. C'est pas mal là. Si vous m'envoyez un message, je vais voir. Je suis pas mal moins souvent sur les réseaux sociaux de ces temps-ci, parce que je suis très, très occupé à faire autre chose. Donc, mais si vous m'écrivez et je vois que j'ai des messages sur Twitter, je vais aller vous les lire et vous répondre. Sinon, il y a toujours le cjuap.com où j'ai mon ancien podcast qui était Histoire de Gamer, qui a 22 épisodes à écouter si jamais vous avez rien à faire.
On est avec un site web maintenant, realitéhug.com, et qui redirige vers la boutique pour acheter un T-shirt à l'effigie de la réalité augmentée. Il y a un petit peu de tout qui nous revient si vous décidez de nous appuyer en vous achetant un T-shirt à notre effigie. Merci de le faire si vous aimez le show. C'est une belle preuve d'appui. Puis en plus, ça vous donne du linge à vous mettre sur le dos.
C'est comme ça pour l'instant. Un jour qu'on aura une idée pour se monter un vrai site web, ça ne pointera plus juste vers la boutique.
Exact.
Mais au moins, ça pointe à quelque part.
Voilà. Daniel, toi de ton côté?
Sur Twitter, DracoADG. Moi, je suis plus actif que Luc de ces temps-ci. Donc, je suis là et j'accepte n'importe quel follower et je refollow souvent. Sinon, sur affairesdegas.com, en fait, tous mes articles se retrouvent là-dessus. Articles que je mets d'ailleurs aussi maintenant sur la page Facebook de Réalité Augmente, comme tu le sais, Jean-Benoît.
Oui, ça met du contenu, on aime ça.
Ben écoute, c'était une plug pour la page Facebook de Réalité Augmentée, donc je te passais la palette.
OK, ben je vais y aller.
C'est passé à rondelle ou c'est
passé à la palette? Passé à rondelle sur la palette, je m'excuse, il est tard.
Tu m'as passé le palais, ben oui. Moi, bien sûr, je m'occupe des comptes officiels de la Réalité Augmentée, autant Facebook, quoique les deux autres garnements y ont aussi accès, que la page sur Twitter, at Réalité Aug. Sinon, il y a bien sûr mon compte à moi, sur Twitter, @gangj_b. Suivez-nous, partagez, faites-nous connaître à vos amis et faites grandir la belle famille de la réalité augmentée. Vous avez des commentaires, vous voulez ajouter votre petit grain de sel à cette discussion de film de Batman, c'est possible. Vous voulez peut-être nous suggérer des sujets, des autres thématiques d'émissions spéciales. Ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait essayer de refaire éventuellement. Laissez-nous vos commentaires via notre adresse courriel. Podcast réalité augmentée @gmail.ca. Donc, gmail.com, pardonnez-moi, je suis en train de me tromper. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça pour pouvoir nous rejoindre. Il y a bien des façons, on est jasable, on est parlable, venez nous parler. Merci beaucoup les deux garnements d'avoir été là encore une fois cette semaine pour la réalité augmentée. Ça fait un plaisir d'animer ça avec vous autres, même si on s'est pogné un petit peu.
Non, pas tant que ça. Ça
fait partie de la game, c'est correct. Une fois de temps en temps. Donc, merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été de l'aventure. On se dit à une prochaine fois pour un autre épisode de la réalité augmentée. La techno à un autre niveau. Salut tout le monde. Bye bye.
Bye.